l'occasion, l'UNICEF plaide pour la réouverture des écoles en RDC. Il l'a dit dans un communiqué de presse rendu public la semaine dernière. Selon les fonds des Nations Unies pour l'enfance, la fermeture des écoles menace directement le développement, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Bien que la RDC enregistre une recrudescence de l'épidémie du coronavirus depuis quelques semaines, l'UNICEF appelle le gouvernement congolais à donner la priorité à la réouverture des écoles et à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Pour l'UNICEF, la fermeture des écoles doit uniquement constituer une mesure de dernier recours après que toutes les autres possibilités ont été envisagées. Que pensez-vous de cette proposition de l'UNICEF? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons M. Edouard Begbeder, il est représentant de l'UNICEF en RDC. Bonsoir M. Edouard Begbeder.
Bonsoir.
Docteur Michel Mouvoudi, médecin, expert en santé publique, il est membre de la Riposte contre la COVID-19. Il est également auteur de l'ouvrage intitulé « 100 questions-réponses pour comprendre la COVID-19 » préfacé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Bonsoir Docteur Michel Mouvoudi.
Bonsoir M. Guimaté.
Et Jean-Marie Santoumé, il est expert en matière d'éducation, promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel, une ASBEL d'éducation civique et culturelle. Bonsoir, monsieur Jean-Marie Santoumé.
Bonsoir.
Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme nous l'avons dit dans le sommaire de cette émission, l'UNICEF plaide pour la réouverture des écoles en RDC. Il l'a dit dans un communiqué de presse rendu public la semaine dernière. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la fermeture des écoles menace directement le développement, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Bien que la RDC enregistre une recrudescence de l'épidémie de coronavirus depuis quelques semaines, l'UNICEF appelle le gouvernement congolais à donner la priorité à la réouverture des écoles et à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Pelle Kipelamondo nous fait le résumé du dit communiqué.
Si les enfants sont exposés à une deuxième longue période de fermeture des écoles, les effets se feront sentir pendant plusieurs générations, indique le communiqué de l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance rappelle cette déclaration d'Henrietta Fore, sa directrice générale, selon laquelle un nombre croissant d'études au niveau international indique que les écoles ne constituent pas les principaux moteurs de la propagation de la pandémie, mais que leur fermeture menace directement le développement, la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Pour l'UNICEF, la fermeture des écoles doit uniquement constituer une mesure de dernier recours après que toutes les autres possibilités ont été envisagées. Les décisions de fermeture d'écoles à l'échelle nationale doivent être évitées autant que possible. Selon Edouard Deybeder, représentant de l'UNICEF en RDC, aucun effort ne doit être ménagé pour ouvrir les écoles et s'assurer que les enfants apprennent à lire, à écrire et à réaliser des calculs de base tout en développant leurs connaissances. L'UNICEF réaffirme son engagement à continuer d'appuyer le gouvernement de la RDC pour assurer les droits à l'éducation de chaque enfant.
Merci à vous, Pelle Kipelamondo. Edouard Begbeder, vous êtes représentant de l'UNICEF en RDC. La RDC est affectée par la deuxième vague de COVID-19 depuis le mois d'octobre dernier. Et la situation a tendance à s'aggraver selon le comité des ripostes qui affirme qu'en moyenne, la RDC enregistre entre 100 et 150 nouveaux cas par jour et précise que le pays a atteint les pics les plus élevés par rapport à la première vague. Monsieur Edouard, pourquoi c'est à ce moment où la tendance est à la hausse que l'UNICEF plaide pour la réouverture des écoles?
Merci tout d'abord de m'inviter pour votre émission. Je pense que la personne qui a un peu résumé notre plaidoyer donne un peu la mesure de notre discussion. En effet, la fermeture des écoles menace directement la connaissance, le développement, la santé, la sécurité, le bien-être des enfants au niveau du pays. Naturellement, il faut regarder en face cette seconde vague qui est en train de parcourir le pays et d'y faire très attention. Mais comme vous le savez, la vague n'a pas affecté les provinces de la même façon. et sur les 100 ou 200 cas que l'on arrive à mettre à jour au niveau du pays, la grande majorité se situe au niveau de trois provinces. Donc la première partie de notre plaidoyer, c'est que si il y a fermeture des écoles, c'est dans les provinces qui sont les plus touchées. Aujourd'hui, ça ne met pas vraiment de sens de fermer les écoles à Sankourou ou dans des provinces isolées, qui d'ailleurs sont les moins fournies, où il y a le moins d'attendance au niveau des enfants.
Pour vous, étant donné que la vague n'a pas affecté toutes les provinces de la même façon, vous pensez qu'on peut tenter de réouvrir là où il n'y a pas assez de cas de Covid-19?
Tout à fait. L'idée, je pense, c'est de provincialiser la réponse. Et d'ailleurs, on le fait au niveau de la santé publique. On
a des actions. Une réponse provinciale et non nationale.
Exactement. Donc ça, c'est le premier plaidoyer, c'est-à-dire d'avoir une réponse qui n'est pas on ferme toutes les écoles dans les 26 provinces, mais effectivement, là où il y a la vague est à la hausse, effectivement, de prendre des mesures.
Et vous ne pensez pas que les revers de la médaille par rapport à cette approche, c'est qu'on on risque de déboucher sur la disparité dans la formation des enfants? Il y a des enfants qui pourront bénéficier d'une formation complète, contrairement à ceux qui vivent dans des zones où la pandémie continue à sévir.
Écoutez, non, pas vraiment. D'abord, de nouveau, chaque province a un grand nombre d'enfants avec un grand nombre de besoins. Mais on s'aperçoit que souvent des provinces qui sont isolées, comme la Chuapa, le Tanganyika, le Kasaï, le Lualaba, ou encore d'autres, sont déjà celles qui ont le plus faible taux de fréquentation. Donc, en termes d'équité, il serait même souhaitable de continuer d'avoir l'éducation dans ces provinces. Mais la question, c'est lorsqu'un enfant tombe malade, il ne va pas à l'école. Après, il doit rattraper. Mais ça ne veut pas dire que vous devez fermer toute la classe ou toute l'école. Je pense qu'il faut donner la chance au plus grand nombre. Et puis, il faut suivre l'épidémie. Si vous avez beaucoup de cas à Sankourou, il faut prendre des décisions courageuses à Sankourou et autres. Mais si vous n'avez pas de cas à Sankourou, il n'y a pas de raison que les enfants de Sankourou ne puissent pas aller à l'école.
Alors, comment, à votre avis, le gouvernement pourrait gérer une telle situation où, dans une partie du pays, les enfants ont étudié normalement, et dans une autre, ces enfants n'ont pas bénéficié de l'éducation comme il se doit?
Bah, écoutez, dans ces cas-là, on essaye d'avoir après des plans de rattrapage, on essaye d'avoir... De toute façon, c'est la même chose qui va devoir se faire pour tout le pays. Et donc, plus on attend ou on n'a pas une réponse provinciale, plus le problème va être grand de rattraper le retard pour tous ces enfants. Donc, s'il y en a moins, on pourra, dans ce cas-là, passer plus de temps pour que les enfants qui ont été affectés par la fermeture puissent rattraper le temps perdu. Si on doit rattraper pour tout le pays, ça devient très compliqué.
Vous savez, on a une expérience dans ces pays, hein, c'est l'année dernière, où les enfants n'ont presque pas étudié, et le gouvernement n'a pas été à mesure, n'est-ce pas, de rattraper ces retards-là.
Alors, il y a eu des cours par les médias, il y a eu des cours...
qui ne sont pas accessibles à tout le monde.
Exactement. Donc, c'est un vrai dilemme. Et c'est pour ça qu'on dit que si les enfants sont exposés à une deuxième longue période de fermeture des écoles, cela va devenir très difficile. Comme vous savez, d'une année à une autre, on renforce sa connaissance. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas forcément des choses d'un trimestre à un autre, mais on renforce petit à petit la connaissance et au fur et à mesure, on apprend. Si déjà une année est malmenée et qu'il y a une deuxième année qui est malmenée, là, il va y avoir des trous dans la connaissance des enfants. C'est pour ça que c'est très important de provincialiser et de suivre là où c'est possible, de garder les écoles ouvertes. L'autre point que je voulais dire, c'est que la fermeture des écoles doit uniquement pour nous constituer une mesure de dernier recours et non pas en premier lieu. Et donc ça aussi, c'est un deuxième plaidoyer. Un, c'est de provincialiser la réponse, y compris au niveau de l'éducation. Et deuxièmement, de fermer ces écoles en dernier recours. Alors la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres recours avant la fermeture des écoles? Parce qu'il est aussi démontré dans plusieurs études que les écoles ne constituent pas le principal moteur. C'est un des moteurs.
Lorsqu'on est dans les contextes congolais où on étudie dans certaines conditions, il y a une certaine promiscuité dans lesquelles les élèves étudient. Les scientifiques disent que les écoles constituent, n'est-ce pas, les cadres propices à la propagation de la maladie.
Ah, c'est un cadre, oui, mais ce n'est pas le principal moteur. Donc le principal moteur reste les marchés, reste les cafés, reste les autres lieux de vie où les gens viennent ensemble.
Oui, nous avons suivi le professeur Mouyembe dans un média la semaine dernière et qui justifiait, n'est-ce pas, cette décision en disant que les enfants, c'est vrai que lorsqu'ils sont affectés, ils ne sont pas directement menacés par la maladie, mais les dangers, c'est qu'ils vont amener la maladie dans leur maison, où vous avez des parents, n'est-ce pas, qui sont des cas à risque, qui ont des maladies comme l'hypertension, comme le diabète. Et c'est pourquoi il fallait prendre cette mesure pour prévenir, n'est-ce pas, ces genres de propagations.
De nouveau, on connaît mieux la maladie cette année que l'année dernière. On sait qu'avec des gestes barrières, on peut effectivement faire face. La question, c'est effectivement qu'on puisse, au niveau des écoles, faire barrière à la maladie. Donc la question est naturellement de la provincialisation, du dernier recours, mais aussi de voir comment, au niveau des écoles, on peut s'assurer que la maladie fluctue au niveau d'un quartier ou d'une ville. Et c'est là où, effectivement, les gestes barrières, les masques pour les professeurs sont quelque chose d'important à faire.
Voilà, vous avez, dans l'interview que vous avez accordée à la radio Capi récemment, vous avez dit que l'UNICEF était disposé, n'est-ce pas, à appuyer le gouvernement congolais dans la lutte contre la propagation de cette maladie dans les milieux des enfants. Et vous avez dit qu'il y avait un plan qui était prévu à cet effet. Et ce plan s'est traduit par quoi concrètement?
Alors, il y a un plan qui a été mis en œuvre par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation, qui est appuyé par le PME, avec un certain nombre de bailleurs. Et effectivement, il y a un plan sur la formation de 15 000 enseignants dans 2500 écoles, sur justement les gestes barrières, sur l'appui psychosocial en classe, ainsi que l'éducation dans des situations où on prend en compte l'hygiène et la santé en milieu scolaire. Il y a aussi, pour 7500 écoles, des kits de lavage de mains dotés de savon et d'autres équipements. Il y a effectivement aussi la distribution de masques pour les professeurs, et voir aussi dans certaines écoles d'avoir aussi avec le PAM des soutiens supplémentaires.
Tout cela est bon, hein, mais vous pensez que dans la faisabilité, il est possible de faire le suivi pour que la mesure barrière soit respectée dans les écoles avec la promiscuité dans laquelle les enfants étudient dans ces pays? Ça, c'est le contexte particulier, hein, quand on parle de la RDC.
Non, tout à fait.
Vous avez des écoles qui n'ont pas été construites depuis l'époque coloniale.
Mais on peut très bien...
Et où on a connu un boom démographique, mais ces écoles n'ont pas été, n'est-ce pas, modifiées dans le sens de répondre à cette évolution démographique.
On peut très bien imaginer d'avoir moins d'élèves par classe, simplement en ayant moins de temps à l'école. Soit que certains enfants viennent le matin et d'autres l'après-midi, ou dans les écoles où il y a déjà ce modèle, dans ce cas-là, d'imaginer qu'ils viennent un jour sur deux, et qu'un jour sur deux, ils soient à la maison et ils travaillent avec un professeur qui leur dit quoi faire. Et donc après, le lendemain, le surlendemain, ils voient ce qu'ils ont fait.
Et ça, c'est des propositions que vous pouvez faire à votre partenaire, quel gouvernement congolais?
Oui, c'est des propositions sur lesquelles on discute. On discute de l'école à distance aussi, à travers la radio, mais qui, de nouveau, ne touche pas tous les élèves. Donc on a le même problème que ce que vous disiez tout à l'heure, en disant certains vont avoir droit à l'éducation et pas d'autres.
Merci, on va vous redonner la parole dans la deuxième partie de l'émission. Docteur Michel Mouvoudi, médecin, expert en santé publique, vous êtes membre de la Riposte contre la COVID-19. Vous êtes également auteur de l'ouvrage intitulé « 100 questions-réponses pour comprendre la COVID-19 », préfacé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. L'UNICEF, comme vous venez de le suivre, plaide pour la réouverture des écoles en RDC et appelle les gouvernements congolais à prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Et que pensez-vous de cette proposition de l'UNICEF, vous, en tant que membre de la Riposte COVID-19?
Merci beaucoup, Monsieur Guy. Je commence aussi par... saluer le représentant de l'UNICEF, M. Edouard, mais aussi reconnaître tous les efforts éloquents que l'UNICEF déploie dans la lutte contre la COVID-19, mais aussi en mettant un focus sur les questions de l'éducation, de la santé de la mère et de l'enfant. Et je pense que par rapport à ce que nous sommes en train de discuter, je crois qu'il faudra d'abord qu'on comprenne que l'éducation, c'est un domaine de développement. Jadis, lorsque j'ai discuté avec certaines personnes, je leur disais, autant quand on met un accent sur certains autres secteurs, comme les mines, comme le commerce, il faut comprendre que l'éducation, c'est un domaine de développement et nous devons avoir une attention particulière par rapport à cela. Et donc, ceci nous pousse quand même à faire de réflexions, et c'est ça le débat au sein des équipes de Riposte, c'est de dire on ne peut pas aujourd'hui opposer la crise sanitaire à d'autres mécanismes de rentabilité. Ok ? Donc vous n'allez pas dire la Covid-19 continue, nous arrêtons tout parce que nous attendons qu'elle termine. Non, je crois qu'il faut retrouver l'équilibre. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Regardez, hein. Dans tout le pays, ok, on a la Covid-19, comment on fait pour que les marchés fonctionnent? On a la Covid-19, comment on fait pour que les gens produisent? Comment on fait que les avions reprennent? Ainsi de suite. Donc la question ici pour moi, c'est de se dire, pour un secteur aussi important comme celui de l'éducation, comment on fait que dans cette pandémie, l'on rende les enfants capables d'aller à l'école? Ok? Parce que si, j'imagine, si la pandémie fait 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les écoles pendant 5 ans? Non. Donc ça, c'est une très bonne question. Et donc, par rapport à ça, il y a 4 petits points sur lesquels je vais broder rapidement, en renforçant un certain nombre de messages que venait de passer le représentant de l'UNICEF. Premièrement, c'est la contextualisation. Monsieur Guy, vous avez dans ce pays, je crois, plus d'une dizaine de provinces où vous avez moins de 10 cas. Il y a le Sud-Ubangi, le Kwilu, le Tanganyika, le Olomami, la Chapa. Il y en a beaucoup où vous n'avez vraiment pas une propagation à outrance de la pandémie. Ça veut dire qu'en fait, dans ces provinces, il y a moyen de commencer à s'investir pour la reprise de l'école. Moi, je suis d'accord avec ce que le représentant venait de dire. D'autant plus que plus de 90% de cas de Covid-19 en RDC sont contenus dans 3 provinces. Kinshasa, le Congo central et le Haut-Katanga. Ça veut dire aussi quelque part que si nous mettons un effort sur les 23 autres provinces qui restent, nous avons déjà quelque part récupéré quelque chose. Nous avons 22 millions d'élèves dans ce pays, on pourrait déjà commencer à se dire, au lieu de laisser toute une masse d'enfants à la maison sans étudier, parce qu'on ne sait même pas jusqu'où la pandémie va aller, on commence déjà à récupérer un certain nombre d'enfants et on aide à ce que ces enfants étudient parce que ces enfants préparent les générations futures. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément,
docteur Michel, vous dites,
renforce des mesures d'encadrement.
Docteur Michel, oui. Vous êtes, oui, en plus d'être médecin, vous êtes aussi enseignant. Est-ce que vous ne pensez pas que cette démarche proposée par l'UNICEF, que vous semblez appuyer, cette démarche de permettre à ce que les élèves qui se trouvent sur des territoires où il n'y a pas assez de cas puissent, n'est-ce pas, reprendre l'école, vous ne pensez pas que cette démarche va privilégier certains élèves au détriment d'autres et du coup créer une sorte de déséquilibre, n'est-ce pas, dans la formation des enfants alors qu'on est dans un même pays? Vous êtes vous-même pédagogue, n'est-ce pas?
Exactement. Monsieur Guy, si vous regardez dans tout le pays, il n'y a pas de solution nationale. Regardez en Chine, regardez en France, selon les régions. Nous parlons de la RDC, c'est un pays qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés, qui a 26 provinces. En fait, c'est 26 pays dans un seul pays, si vous voulez bien. Et donc, à ce titre-là, regardez, même quand on fait des confinements, lorsque nous prenons des mesures, on cible et on contextualise parce que la dynamique de la pandémie n'est pas la même partout. Est-ce qu'on attend la fin de tout pour dire on lance les écoles ou on peut déjà, en phase, commencer à travailler sur les potentielles zones là où nous pouvons faire quelque chose et faire reprendre l'école, quitte à ce qu'on adapte nos programmes ou alors qu'on mette des programmes intensifs pour pouvoir justement aussi compléter dans les autres provinces. Je crois que c'est ce que vous voyez un peu partout dans le monde. Et même quand on parle de confinement, par exemple, on ne confine pas tout le monde, on ne confine pas partout. On cible des secteurs dans l'idée justement de faire en sorte que l'on diminue la propagation du virus, mais aussi qu'on récupère la rentabilité ailleurs. Donc c'est toute une dynamique qu'il faut prendre en compte pour pouvoir justement ne pas contextualiser les décisions. Et le deuxième élément qui complète ça, c'est la prévention en fait. Je crois que l'enfant, c'est un acteur important dans ce pays. L'enfant, il vient d'une famille, l'enfant va à l'école, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, si cet enfant est infecté, il peut revenir infecter sa famille. Mais ce qui est important, je crois qu'on l'a dit, c'est que quand on va pouvoir justement passer à cette réouverture d'école, faudra marteler suffisamment sur la prévention de la propagation du virus en milieu scolaire. Et ça, ça va demander l'implication de tout le monde, du gouvernement, des partenaires au développement, pour faire en sorte que, dans ces milieux-là, que les enfants ne deviennent pas des sujets à risque, que ces enfants ne soient pas exposés. Et il y a toute une litanie de prescrits que l'équipe de Riposte a partagé avec les PST pour dire attention, lorsque vous allez faire ces genres de choses, voilà ce qu'il faudra mettre en place. Et je crois maintenant, et ce que j'ai toujours dit ici sur la radio Capi, lorsqu'on va demander qu'on mette en place ces mesures dans les écoles, une chose c'est de demander, mais l'autre chose c'est vérifier qu'on applique. C'est là où, par exemple, les inspections de l'éducation peuvent aider. C'est là aussi qu'il faut voir avec les parents, les comités des parents, voir avec le gouvernement, les partenaires, quelles sont les ressources à mobiliser en addition à ce qu'on a pour pouvoir garantir que l'espace scolaire ne soit pas un espace à risque. Je crois que ça, c'est possible, mais il faut commencer à y travailler en amont. Le grand problème, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait la rentrée scolaire, que l'on puisse voir des enfants infectés pour dire « mettons en place les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus ». Mais ce qui, je vous rappelle que quand vous prenez les statistiques au 3 janvier 2021, je regardais la tranche de 0 à 18 ans, on a compté quand même 918 cas dans cette tranche-là. Donc, c'est la tranche scolaire, dont je prends aussi ceux qui sont à l'école secondaire. Ça vous fait quand même 5% de personnes infectées pour cette tranche d'âge-là. Donc c'est important justement de prendre ça au sérieux, mais de trouver cet équilibre-là et y travailler en amont dès maintenant.
Alors, oui, docteur Michel Mouroudi.
Et je vais peut-être conclure par là. C'est la question d'opportunité d'avoir des enfants à l'école. Et je crois qu'on l'avait déjà mentionné, ce moment où les enfants viennent à l'école, c'est pas seulement pour apprendre autre chose, mais c'est aussi l'occasion d'avoir une bonne masse de personnes à qui il faut donner l'information. Moi, je vois des enfants qui nous apprennent à la maison. Lorsque mes enfants rentrent de l'école, parfois ils m'apprennent des très bonnes choses que moi je ne connais pas. Donc c'est aussi l'occasion à l'école d'intensifier l'éducation sur la COVID-19. On a des enfants qui arrivent, et donc c'est pour cela même que nous avons sorti ce livre pédagogique pour que l'on puisse commencer déjà à dire aux enfants, attention quand vous rentrez à la maison, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, lavez-vous les mains, attention quand vous voyez ça. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut intégrer pour pouvoir avancer. Évidemment, quatrièmement, je crois que c'est le sujet évaluation de tous ces processus pour justement arriver à identifier des clusters ou des poches où on pourrait justement prendre des mesures idoines.
Michel Mouroudi, vous êtes membre de la Riposte contre la COVID-19 et c'est vrai que vous êtes scientifique, hein, vous n'avez pas de décision, vous donnez des avis au gouvernement, mais depuis que l'UNICEF a fait cette proposition depuis la semaine dernière, est-ce que vous êtes déjà réunis, est-ce que vous avez eu des séances de travail avec le gouvernement congolais pour essayer de discuter sur cette proposition de l'UNICEF?
Alors, au niveau du secrétariat technique, on a justement fait une réunion en tant que technicien pour pouvoir analyser tous les déterminants. Bon, n'oubliez pas que, je vais peut-être pas le dire, mais c'est trop tôt, mais regardez déjà les statistiques, on pense qu'on pourrait avoir une certaine amélioration en termes de nombre de cas. On est déjà à moins de 100 cas depuis 2-3 jours, mais on reste encore prudent. Mais la vérité, c'est que cette question, on l'a discutée avec les collègues du secrétariat technique de la Riposte, et nous avons justement pensé qu'il était important de réouvrir les écoles. Donc je crois que c'est une décision qui va être sans doute portée, mais avant, il y a des mesures qui doivent accompagner, mais aussi il y a une évaluation qu'il faut faire.
Merci.
Donc, lorsque nous parlons de la contextualisation, par exemple, ça va être un élément important. Lorsque nous allons parler d'évaluer l'application des mesures de barrières dans les écoles, ça va être une question qu'on va devoir faire en évaluation, et donc tout ça, ça va nous permettre justement de rentabiliser un secteur très important qui
est le secteur de l'éducation. Merci, docteur Michel Mouroudi. Merci, Jean-Marie Tantmey, expert en matière d'éducation, promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel, UNASBEL d'éducation civique et culturelle. Comment vous réagissez à cette proposition de l'UNICEF qui souhaiterait, n'est-ce pas, qu'on puisse rouvrir, n'est-ce pas, les écoles dans les contextes de la pandémie de COVID-19 en RDC?
Merci beaucoup de m'associer à cette réflexion importante. Le BAC apprécie la suggestion de l'UNICEF, mais souhaiterait que tout se fasse dans le respect des avis du secrétariat technique, qui est l'instance qui n'a pas de sentiment, la science n'a pas de sentiment. Nous tous, nous voulons bien que nos enfants étudient, mais la santé avant tout. On ne peut pas préjudicier la santé pour des raisons des études. Quand l'UNICEF parle du développement, mais le développement doit tenir compte de la santé. Les BAC comme tout le monde, est quand même surpris de constater qu'on laisse les Congolais fréquenter les bars où il n'y a pas de discipline, où il y a la promiscuité, mais on interdit les élèves qu'on peut discipliner à fréquenter les écoles. Alors que dans les écoles, on peut discipliner, on peut encadrer les enfants. C'est là l'erreur commise par le gouvernement qui certainement n'a pas écouté l'avis des scientifiques. Maintenant, comme Dr Muyembe, l'expert, a dit qu'on pourrait décanter la situation dans quelques semaines, je souhaiterais que l'UNICEF et nous tous puissions avoir une rencontre concertée entre les experts en éducation et les experts en santé pour ne pas préjudicier la santé des enfants, parce que quand ils vont mourir, ce sera plus que manquer de développement. On ne pourra même plus les développer. Sinon, le BAC soutient cette proposition, mais il ne faudrait pas que l'UNICEF puisse aller trop vite sans qu'il y ait une concertation avec le secrétariat technique chargé de la lutte contre la COVID-19. Et nous sommes contre la précipitation, nous le répétons, du ministère de l'EPST qui veut tout enjamber sans tenir compte de l'avis des experts congolais. Souvent on ne réunit que les experts extérieurs parce qu'ils apportent de l'argent. Non. Le BAC soutient cette idée de l'UNICEF, mais nous souhaiterions une concertation, un débat dans une salle à huis clos, sans les médias, avec l'UNICEF, le comité des parents et nous les experts en éducation.
Vous êtes expert en éducation, comme vous le dites, vous êtes pédagogue. Et comment vous réagissez à cette proposition de l'UNICEF qui pense que la réponse à apporter à cette question, c'est une réponse provinciale, c'est-à-dire qu'on peut permettre aux provinces qui ne sont pas très affectées par la pandémie, on peut permettre, n'est-ce pas, aux enfants qui vivent dans ces provinces-là de pouvoir reprendre avec l'école.
Non, non.
Est-ce que vous, en tant que pédagogue, vous pensez que c'est une solution convenable?
Non, non. Il n'y a pas de solution provinciale. À supposer que 8 provinces, les enfants étudient. À la fin de l'année, il y aura un examen d'état national ou un examen d'état provincial. Et les enfants qui n'auront pas étudié, nous allons tomber à l'école secondaire avec 2 cycles d'année scolaire. Non, 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 non. Le BAC n'est pas d'accord avec les solutions provinciales. Nous avons une éducation nationale, un système national, examen d'état national. On ne doit pas avoir des provinces qui vont terminer l'année scolaire et d'autres pas. Non. Là, ce n'est pas, excusez-moi, le BAC pense que ce n'est pas rationnel. Nous ne sommes pas d'accord avec l'UNICEF. Il faut une solution nationale que les autres élèves attendent que ceux dont les provinces sont attaqués par la COVID-19 puissent être autorisés par le secrétariat technique chargé de la lutte contre la COVID-19. Le BAC est contre les solutions particulières.
Monsieur Tansoumaï, si le BAC est contre cette solution, qu'est-ce que vous proposerez? Vous auriez souhaité que s'il faut reprendre les cours, que cela puisse concerner toute l'étendue du territoire national?
Oui, oui.
Et si ça s'est fait de cette manière-là, vous avez été...
Mais c'est un sommeil. Ça m'a dit que femme, on devait dormir dans l'eau, le foie ne tue pas. Attendons, l'UNICEF sait que l'éducation est nationale. Nous avons un examen d'état national. Nous avons un examen d'état pour 2 ou 3 provinces. Il n'y a pas à s'empresser. Prenons patience, le jour viendra, aussi longue que soit la nuit.
Voilà, vous avez dit vous-même qu'on ne doit pas exposer la santé des enfants. Vous avez donné cours pendant longtemps dans ces pays. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les enfants étudient avec la promiscuité dans beaucoup d'écoles du pays. Et vous pensez que s'il faut reprendre les cours, même dans les provinces qui sont affectées considérablement par la maladie comme Kinshasa, vous ne pensez pas que c'est ça aussi une façon d'exposer la santé des enfants?
Non. Les enfants seront encadrés. Je pense que, comme la plupart d'écoles, on court avant ou après-midi. On pourra voir comment organiser pour que les écoles puissent organiser les cours de telle manière que le nombre... Et puis, il y a beaucoup d'écoles où il y a la distanciation qui est respectée. Sauf dans des écoles où, suite à la gratuité, il y a une abondance. Mais je pense que on peut voir comment organiser les cours pour que les élèves puissent être placés dans le respect de la distanciation. Mais je pense que, en tout état de cause, je voudrais m'en remettre aux solutions, aux propositions du secrétariat technique dont Dr William l'expert pourrait bien nous donner son avis. Je préfère que nous ayons une réunion le plus tôt possible des experts de tous les deux groupes en éducation et en santé.
Merci Edouard Begbeder. Vous allez réagir à cette réflexion qui nous est faite ici par notre auditeur qui nous appelle depuis Kananga.
Moi, Chaba, depuis la ville de Tshitapa, j'étudiais la proposition de l'UNICEF. La France a déclaré ces derniers jours les couvre-feu et je crois bien que les écoles ne sont pas fermées. Les écoles fonctionnent. Alors je constate avec beaucoup de regret que le gouvernement congolais a pris cette décision en vue d'échapper à sa promesse de prendre en charge le NUNP des écoles secondaires, maternelles et des bureaux gestionnaires. Ainsi, nous demandons au gouvernement de ne pas chercher à compromettre l'éducation des enfants, qui est un des piliers du développement d'une nation. Que le gouvernement réouvre les écoles tout en mettant en place un certain nombre d'exigences quant au respect des mesures barrières. Le bar, les églises fonctionnent et je vois les politiciens qui se rencontrent tout le temps et pourquoi les écoles restent fermées. Que le gouvernement puisse prendre des mesures pour pouvoir permettre à nos enfants congolais d'étudier parce que les enfants congolais constituent une élite intellectuelle de demain.
Edouard Begbeder.
Je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est le consensus, à un moment ou un autre, d'avoir de nouveau les enfants, au plus vite, retournés à l'école. Sur les moyens, où est-ce qu'on devrait commencer, directement partout, comme le dit notre interlocuteur, oui, effectivement, les experts du ministère, le secrétaire général, doivent se réunir et voir comment se faire. La question, c'est justement d'aller dans un sens. Aujourd'hui, on est allé dans un sens qui était une fermeture complète et totale. On voit bien à travers ce plaidoyer qu'on est en train de revoir comment réouvrir les écoles. Donc je pense que c'est très positif.
Vous avez suivi M. Tantoumé de Bac qui lui estime que par rapport à cette question fondamentale, il ne faudrait pas des réponses provinciales.
La question c'est que dans les écoles, ce n'est pas uniquement le savoir et l'examen de la fin de l'année. C'est aussi des enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue. C'est aussi des filles qui vont souffrir du mariage précoce. C'est aussi des questions de sécurité et de bien-être des enfants. Il y a aussi naturellement le savoir, qui est la première raison pour laquelle vous allez à l'école. Mais il y a bien d'autres éléments qui rentrent en compte pour lesquels les enfants doivent aller à l'école. Mais naturellement, la sécurité et leur santé est le premier objectif. Et c'est vrai que c'est par contre, j'appuie beaucoup l'idée d'effectivement que les experts de la santé et les experts de l'éducation se réunissent et puissent en discuter pour voir les modalités. Parce que de nouveau, à la fin, notre plaidoyer, c'est d'avoir les mesures au niveau des écoles, de toutes les écoles du pays, pour permettre, comme dans d'autres pays, que les enfants puissent à l'école, mais en prenant en compte le contexte congolais.
Merci, docteur Michel Mouvoudi. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient des Kinshasa.
Thomas Emmanuel Nkachama, j'appelle à partir de Kinshasa. Je souscris à la proposition de l'UNICEF. La lutte contre la maladie des coronavirus est un impératif et tous nous encourageons cela. Mais prendre des mesures dont les sens et les mécanismes échappent à la compréhension de tous est une erreur grave et une pénalisation des milieux éducatifs. À l'exception de l'école, les enfants fréquentent tous les milieux de masse, les bars, les restaurants et les églises. Pourquoi et comment deviennent-ils dangereux pour les parents et leurs grands-parents, vulnérables bien sûr à la maladie, seulement en fréquentant l'école? C'est inexplicable et cette mesure n'a pas sa raison d'être. L'école est la sève de la société. Elle doit rouvrir pour éviter l'essor de l'année passée où on nous a parlé de sauver l'année scolaire alors que les processus étaient bâclés.
Docteur Michel Mouvoudi.
Non, je pense que l'auditeur a totalement raison et je l'ai mentionné aussi. D'abord, premièrement, il faut qu'on comprenne que lorsque nous mettons un focus sur l'éducation, nous ne disons pas que le reste tombe. Les mesures édictées pour renforcer la prévention de la propagation du virus dans d'autres milieux restent. Donc le couvre-feu, la distanciation physique, la fermeture de certains endroits comme les boîtes de nuit, tout ça reste. On ne dit pas que voilà, l'école reste le seul endroit où on va appliquer les mesures ailleurs, continuez ce que vous faites. Non, non, je crois que c'est un ensemble d'interventions et c'est un kit de d'outils que nous avons mis en place pour pouvoir endiguer cette situation. Alors, deuxièmement, je crois que c'est bien que les gens comprennent qu'en fait, cette question est multisectorielle. Quand on parle des experts du secteur de la santé, non, il faut penser aussi à d'autres secteurs, je crois qu'on l'a mentionné par mon prédécesseur. C'est important que la question soit résolue dans un cadre plurisectoriel, et c'est comme ça, justement, j'encourage ce dialogue. Même alors qu'on dit que, voilà, la question va être traitée par l'expert, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, mais il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne. Le professeur Mouyembe dirige un secrétariat technique, il existe un conseil consultatif. Donc, en fait, dans ces comités, on essaie de faire participer tout le monde et les décisions sont prises de manière consensuelle, après des débats, après, justement, des analyses profondes. Et je voudrais ici, Monsieur Guy, que les gens comprennent que c'est bien de pouvoir dire, voilà, on va faire partout la même chose. Non, la Covid est en train de nous apprendre qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir changer, sans doute. Le mode de vie va potentiellement être modifié. Donc, il faut qu'on soit très adaptatif. Mais il faut aussi qu'on soit très regardant sur qu'est-ce qu'on tire comme leçon et comment on avance. L'idée ici, ce n'est pas d'être maximaliste en disant on ouvre tout, on ferme tout, mais l'idée c'est de te dire quels sont les équilibres que nous dévisons pour pouvoir permettre à ce que les secteurs clés de la vie continuent à fonctionner, mais aussi que nous continuions à faire correctement la lutte contre cette crise sanitaire. Donc c'est cet équilibre justement qui doit caractériser tous les cadres des concertations et les débats que nous faisons. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. Et pour moi, encore une fois de plus, comme le venait de dire M. Thomas, l'éducation, c'est un secteur important. Nous devons y accorder beaucoup, beaucoup de moyens. Et quand les mesures vont être dictées, faisons en sorte qu'on les applique. Le problème de ce pays, c'est pas prendre des mesures, c'est les appliquer. Il faut y mettre des moyens. Il faut s'engager à sensibiliser pour qu'on les applique. Et si on ne fait pas ça, on aura écrit sur papier la reprise des écoles, mais en réalité, vous allez dans les écoles, ça va être tout simplement des clusters ou des lieux de contamination.
Oui, l'éducation est aussi importante que la santé. Et à votre avis, comment peut-on concilier les impératifs de l'éducation et les impératifs sanitaires?
Dans cette situation où nous sommes aujourd'hui, la prévention reste quand même la clé de voûte. Okay? Donc ça veut dire qu'il faudra veiller à ce que les enfants ne se contaminent pas. D'où mettre en place des systèmes de prévention qui soient drastiques, tout en sensibilisant les enfants aussi à cette prévention. Je crois qu'il faudra qu'on commence à prendre le temps. Moi, je l'avais souligné déjà à l'époque, quand on levait l'état d'urgence, qu'en fait, pour moi, la première leçon à donner aux enfants le premier jour où ils sont partis à l'école, c'était qu'est-ce que c'est la Covid-19, comment on se protège contre cette maladie. Donc, ça va être important de travailler sur ça. De l'autre côté, lorsque les conditions scolaires sont réunies en termes d'éviter la propagation du coronavirus, eh bien, les cours peuvent commencer. C'est vrai, il y a aussi des outils aujourd'hui, comme notamment l'utilisation du numérique. Tout ça, il faut coupler. L'idée, c'est de dire, on ne peut pas laisser tomber tout. Mais aussi, on ne peut pas y aller parce qu'on parle de l'éducation, mais après, on revient encore en arrière en disant que c'était une erreur. C'est comme ça qu'il faut être très prudent, tout en associant justement les mesures de prévention telles que nous l'avons éditées, mais aussi de l'autre côté en voyant comment on essaye d'aller de l'avant pour que les enfants étudient. C'est un peu comme ce qu'on avait vu avec le confinement de la Gombe. Quand on avait confiné Gombe, les gens disaient « Mais pourquoi vous avez seulement confiné Gombe, pas ailleurs ? Pourquoi vous avez confiné Gombe, pas ailleurs ? Pourquoi vous ne déconfinez pas ailleurs ?» Donc en fait, en santé publique, Monsieur Guy, vous n'y allez pas comme si vous êtes en train
de
promulguer des mesures administratives. Vous tenez compte du contexte, de la dynamique de l'évolution, et en fonction de ça, vous pouvez changer. Nous sommes en santé publique, et les questions de santé publique ne sont pas des questions
qui
restent mathématiques.
Merci Jean-Marie Tantoumeil. Votre réponse aussi, hein, à votre avis, comment peut-on arriver à concilier les impératifs de l'éducation et les impératifs sanitaires? Vous avez suivi Dr Mouvoudi qui insiste sur la prévention.
Oui, je suis d'accord avec la prévention, la discipline, mais je souhaiterais que le plus tôt possible, il y ait une concertation où se retrouvent les experts de la santé, les experts en éducation, le comité des parents, à huis clos sans les médias, pour ne pas avoir des comportements surexcités et populistes, que nous puissions réfléchir ensemble afin que les écoles qui sont les milieux disciplinés ne peut pas être sacrifié alors que les bars où il y a l'indiscipline, il y a la promiscuité, on les laisse fonctionner. Les jeunes qui ne vont pas à l'école passent tout le temps dans les bars. Maintenant, les bars sont beaucoup plus fréquentés par nos enfants que les parents, parce que les enfants ne sont pas encadrés. S'ils sont encadrés à l'école, ils n'iront pas dans les bars. Je pense que là, c'était une erreur que le gouvernement avait commise. Je répète, je pense que le gouvernement n'avait pas écouté les avis du secrétariat technique. Je ne vois pas les scientifiques autoriser les bars à fonctionner et les églises, encore les églises, il y a encore de la discipline, mais surtout les bars, aller les soirs, comment il y a la promiscuité. Et puis dans les taxis, les gens montent à trois, il n'y a pas de distanciation. Tout ça, on laisse passer, on s'en prend aux écoles. C'est pour ça que j'ai lu dans les réseaux sociaux, quelqu'un de Lubumbashi pensait qu'il y en a qui ne voulaient pas que les enfants étudient. Parce que ce n'est pas pour réfléchir de laisser fonctionner les bars, il y a la promiscuité, et interdire aux écoles, il y a la discipline, il y a l'encadrement. Je souhaite une solution concertée. C'est ce que le BAC souhaite.
Merci. Merci, monsieur Edouard Beder, représentant de l'UNICEF en RDC. Il faut concilier les impératifs sanitaires et les impératifs éducationnels. Et docteur Mouvoudi a insisté sur la prévention, tandis que monsieur Jean-Marie Tantoumeï, lui, insiste sur la concertation entre les experts. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant qu'UNICEF?
Pour moi, aucun effort ne doit être ménagé pour rouvrir les écoles et s'assurer que les enfants apprennent à lire, à écrire, à se réaliser, tout en développant leurs connaissances. Donc je suis en accord avec nos deux interlocuteurs. Il faut penser à la réouverture des écoles et voir les conditions. Et clairement, les conditions doivent être discutées entre les experts de la santé et les experts de l'éducation. Il y a peut-être des endroits où on peut ouvrir un peu plus vite, d'autres moins. Là, c'est là où il faut prendre en compte effectivement l'épidémiologie, la façon dont l'épidémie se développe dans le pays. On peut très bien, lors de la première vague avait démarré plus sur à l'ouest du pays, puis elle est allée vers l'est. Et donc ça veut dire qu'aussi on doit accompagner quelque part ce flux.
Et nous sommes à la fin de l'émission, c'est quoi votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que il y a un large consensus sur la réouverture des écoles. Naturellement, les moyens, la façon de le faire doivent être discutés, et il faut se donner les moyens sur comment réouvrir l'école. Je pense que c'est le comment qui est aujourd'hui la question. Et donc il faut qu'on consulte que le gouvernement puisse recueillir les différents conseils afin de prendre une bonne décision.
Merci docteur Michel Mouvoudi, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est juste que les gens comprennent que l'éducation est un secteur très important du développement du capital humain, et à ce titre là c'est un secteur qui doit mériter notre attention. Donc il est temps, justement, dans un cadre très inclusif, qu'on commence à débattre de la question de la réouverture des écoles en prenant des mesures d'encadrement pour éviter la propagation du virus en milieu scolaire.
Merci, monsieur Jean-Marie Tantoumeï, votre conclusion?
Le BAC attend impatiemment prendre part à cette réunion de concertation où on doit écouter les avis des scientifiques sans sacrifier l'éducation au profit des bars où il y a la promiscuité et les taxis où les gens sont dans la promiscuité. Qu'il y ait un peu de rationalité dans tout ce que tu comprends.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique, et merci à Kéline Couté et Donald Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Bonto. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.